J'avais à cœur de vous parler de la souffrance cet après-midi. Vous vous rappelez, il y a quelques mois ou quelques semaines, j'avais fait une série ou un message sur l'origine du mal, hein, d'où venait le mal. Mais conséquence du mal, c'est la souffrance, bien entendu, puisque à cause du péché, il y a un jugement qui est venu sur nous et le monde dans lequel nous venons à l'existence, est rempli de mal. Notre cœur aussi est parfois rempli de mal. Et c'est un sujet qu'il est important de traiter de temps en temps afin de pouvoir un peu discerner ce qui peut se passer dans notre vie et être sage quant aux décisions qu'on a à prendre et aux pensées que nous pouvons avoir. La souffrance, alors, elle peut être intense ou pas, elle peut être importante ou pas, elle peut être fréquente ou moins fréquente. Et puis aussi, j'ai remarqué ça très souvent, c'est qu'on parle de la souffrance physique, par exemple, et les médecins, les chercheurs font des analyses concernant la souffrance, c'est qu'à partir de quel moment on souffre physiquement. Mais on s'aperçoit que la notion de souffrance n'est pas la même d'un individu à un autre. Lorsque vous mettez à disposition une poire pour que des grands malades puissent s'injecter de la morphine pour être soulagés, vous avez des personnes qui, pour un mal donnés vont se servir de ce médicament, c'est pas un médicament, mais en tout cas de ce produit qui allège la souffrance. Ils vont utiliser ça bien plus tard qu'un autre malade qui, lui, dès qu'il aura un petit bobo, je dirais, va utiliser cette poire. Donc la souffrance est aussi une notion subjective, tout comme la douleur. D'accord ? Pour une personne, il y a des personnes qui résistent plus à la douleur que d'autres. Donc la façon dont nous appréhendons la souffrance va aussi impacter l'importance de cette souffrance ou pas. C'est-à-dire que si je me fais une montagne avec les détails de la vie, je vais avoir l'impression de beaucoup souffrir, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément une grande souffrance. Simplement parce que je suis orgueilleux, exigeant, difficile, égoïste, subjectif, je vais voir tous les détails de la vie comme une catastrophe et être malheureux, alors que la personne d'à côté va vivre les mêmes choses peut-être, mais elle va passer un peu, surfer un peu au-dessus. Et de la même manière, dans des événements beaucoup plus graves, un deuil, une perte, la perte d'un être cher, un accident grave, vous avez des personnes qui ont une capacité de résilience plus importante que d'autres. Certains vont déprimer, d'autres au contraire vont rebondir. Donc c'est un mystère. On sait que la souffrance existe, comme on sait que la douleur existe, mais les conséquences de la souffrance ou de la douleur ne sont pas les mêmes en fonction des individus. Et donc nous, en tant qu'individus, croyants, et s'agissant de la souffrance, il est bon aussi que nous ayons une part d'objectivité pour ne pas vivre justement dans la subjectivité. Penser que Dieu est contre nous, que Dieu ne pense pas à nous, que nous sommes malheureux, etc. Alors qu'en réalité, oui, les détails de la vie peuvent nous encombrer, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes dans une grande souffrance. Simplement, nous sommes réactifs à ces détails de la vie, peut-être plus que d'autres. Et c'est aussi dans ce domaine-là qu'il nous faut parfois nous repentir. Et il est important, du coup, de compter les bénédictions de Dieu. Et quand je vous parle de la vie quotidienne, c'est que dans Ecclésiaste, on va commencer avec ce passage, on va voir pas mal de passages dans les Écritures. Mais dans Ecclésiaste, chapitre 2, versets 22 et 23, il est écrit ceci. Ecclésiaste, chapitre 2, versets 22 et 23. « Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil ?» Tous ces jours ne sont que douleurs, donc vous voyez, pas qu'un seul, hein. Tous ces jours ne sont que douleurs et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Donc là, il nous est parlé de façon très générale, il ne nous est pas donné de détails sur ce que cet éventuel individu traverse, mais toujours est-il qu'il est dit là que l'homme ne profite pas de tout son travail et de la préoccupation de son cœur. Et donc, c'est l'objet de ses fatigues sous le soleil. Je me rappelle, moi, j'ai connu des gens qui, assez fréquemment, à chaque fois que je les rencontrais et que je demandais comment ça allait, je suis fatigué. Quelques jours après, comment ça va? Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'était un refrain, d'accord? Et c'était peut-être vrai, c'était peut-être exagéré. C'était peut-être aussi un refrain appris, hein, un réflexe pavlovien où Voilà, on pose une question, c'est toujours la même réponse qui sort, même si la personne a bien dormi, mais elle va quand même dire qu'elle est fatiguée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai, nous sommes quelque part enclins à être dépités devant les situations de la vie et voir ces choses-là comme quelque chose de vain, c'est-à-dire ces petits détails de la vie répétés qui affectent notre cœur. Parce que ce qui est intéressant, là, il est parlé des choses que l'on va faire sous le soleil, le travail, mais aussi la préoccupation de notre cœur. C'est qu'on voit qu'il y a un lien entre le travail sous le soleil et la préoccupation de notre cœur. Et ce qui est intéressant, c'est quand le soleil se couche, c'est la nuit. Que reste-t-il la nuit ? Bah, toujours ce même cœur, hein, puisqu'il est dit, même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est-à-dire que la personne va être tellement enclin à penser à des choses négatives qu'elle va, au bout d'un moment, ne plus se reposer. Elle ne va plus avoir un cœur en paix. Et ce qui fait que ce que vit la personne le jour, et qui normalement est censé la fatiguer, je dirais, physiquement, l'amener à vouloir du repos, ben la personne ne se repose pas, même la nuit. Tout simplement parce que la façon dont elle vit ses journées engendre des veilles la nuit. Et donc là, le psalmiste, mais l'Ecclésiaste plutôt, parle de ce lot de souffrance permanent, et il dit « c'est là encore une vanité ». Je rappelle le mot vanité ici, et c'est ce qui engendre souvent une souffrance, c'est que le mot vanité, c'est en hébreu, c'est une vapeur, un souffle, d'accord, mais c'est pas le souffle de Dieu là, hein, c'est une vapeur, une vanité, ça engendrait vanité ou faire des choses vainement. Hein, on fait des choses vaines des fois parce qu'on fait quelque chose et puis ça porte pas de fruits, donc c'est vain. Et c'est l'impression que nous avons des fois dans notre existence. Et c'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui nous épuise. C'est ça qui affecte notre cœur jusqu'à peut-être ne pas endormir la nuit. C'est-à-dire que nous vivons des journées où nous essayons de lutter contre certaines choses. Et puis le lendemain, la chose recommence, la chose recommence, la chose recommence. Ou ça peut être une relation, un conflit avec quelqu'un. Enfin, peu importe les situations de la vie. Mais toujours est-il qu'on a l'impression de revivre toujours la même journée sans que ça serve à quelque chose. Donc ça serve à quelque chose. Ça nous rappelle d'ailleurs dans le panthéon grec et dans la mythologie grecque le mythe de Sisyphe. Hein. Sisyphe est une personne qui a été jugée par les dieux et son châtiment est de rouler une grosse pierre en haut d'une montagne. Et si elle arrive un jour à ce que cette pierre arrive au haut de la montagne, son châtiment cessera. Le problème, c'est que Sisyphe monte cette pierre et puis arrivé presque en haut de la montagne, il n'arrive pas à contenir la pierre redescend et il faut qu'il recommence. Donc en fait sa vie entière, c'est un peu l'enfer, hein, c'est un type de l'enfer en réalité, il s'en sort pas parce qu'il n'arrive pas à amener cette pierre en haut. Et Camus a écrit un livre qui a pour titre Le mythe de Sisyphe parce qu'il parle justement de l'absurdité de la vie. Mais en tant que chrétien, on peut vivre dans une forme d'absurdité. Et d'ailleurs, alors même si Camus n'était pas purement un existentialiste, mais les existentialistes, eux, ont théorisé sur cette vanité de la vie. Parce que il est vrai que sans Dieu, la vie est vaine. Parce que sans Dieu, il n'y aura pas d'issue de secours. Même si j'arrive à m'en sortir, un peu comme Sisyphe qui arrive au milieu de la colline à monter sa pierre, il dit « Ah c'est super, j'ai fait quelque chose de pas mal déjà ». Et la vie c'est un peu ça, on a des moments de joie, on a des moments... Mais c'est comme être au milieu du guet, mais on sait qu'à la fin c'est la mort de toute façon. Et donc c'est ça qui nous ronge aussi. Mais ça c'est, là je vous parle de l'existence globale de notre vie, mais c'est un peu la même chose aussi dans les détails de la vie, c'est-à-dire qu'on roule une pierre, je sais pas, certains ont un mariage difficile, et chaque jour ils roulent cette pierre, et puis ça ne marche pas, certains ont des problèmes dans l'éducation de leurs enfants, ils roulent la pierre chaque jour, et puis c'est vain, ça redescend le lendemain matin, c'est toujours là. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment les gens n'arrivent plus à dormir, parce qu'ils sont comme dans une prison, ils savent ce qui les attend le lendemain matin. Mais en réalité, Dieu permet ça aussi dans notre existence en tant que chrétien, parce que notre Père veut vraiment nous délivrer de cette vanité de l'existence. Et si on cherche en permanence, par nos propres forces, en fonction de notre cadre de référence, notre subjectivité, notre culture, notre ego, tout ce que vous voulez, notre personnalité, si on essaye d'arranger la vie à notre manière, c'est comme pousser une pierre en haut d'une colline et ne pas réussir à la fin, ce sera vain. La vraie délivrance, en réalité, c'est de laisser tomber la pierre. C'est de dire que la condamnation, il n'y en a plus pour moi. J'ai été délivré de la condamnation. J'ai plus besoin d'œuvrer par mes propres efforts et d'essayer de trouver des solutions pour mon existence qui sont naturelles. J'ai la possibilité de vivre au-dessus. Ce dont Pasteur Schaller parle souvent, enfin il en a parlé il y a quelques années, vous savez, du deuxième étage. C'est-à-dire qu'on est dans une maison et des fois on peut vivre qu'au rez-de-chaussée en pensant que la maison c'est le rez-de-chaussée. Mais on ne sait pas qu'il y a un premier étage. On ne profite pas du premier étage. Et la vie chrétienne consiste à vivre quand même au rez-de-chaussée parce que nos pieds sont au rez-de-chaussée, mais il faut avoir la tête au premier étage. Il faut avoir une vision beaucoup plus vaste de l'existence, et ça nous parle des pensées de Christ, par exemple, des projets de paix et non de malheur, dont Pasteur Jean-Paul a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des pensées de Dieu, l'éternité qui nous attend, nous sommes assis à la droite de Dieu. Ça, c'est vivre au deuxième étage. Et ça, c'est pas vain de penser à ces choses-là. C'est pas vain de s'édifier dans le Seigneur sur ces choses-là. Parce que la réalité de notre existence, elle est au deuxième étage. Elle n'est pas au rez-de-chaussée. Et trop souvent, c'est le principe qu'on voit avec Marthe et Marie, vous savez. Vous avez Marie qui est au pied de Jésus et qui écoute le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur lui parle du deuxième étage. Un étage que nous, on ne voit pas, mais que lui nous révèle. Donc Jésus enseigne Marie et elle est au pied du Seigneur et l'écoute. Et Marthe, elle, vit au rez-de-chaussée. Et pourquoi elle est frustrée? Parce qu'en fait, il y aura toujours de la vaisselle à faire, il y aura toujours de la cuisine à faire, il y aura toujours du ménage à faire, il y aura toujours des invités à honorer. Ça, c'est le quotidien, et ce sont des choses importantes, mais c'est pas l'essentiel de l'existence. Et si je me lève le matin en pensant qu'un jour, il y aura plus le ménage, plus la vaisselle, plus le travail, on n'aura que des enfants sages, des enfants obéissants, mon patron va m'augmenter tous les jours, il sera toujours content de mon travail, moi-même, je vivrai plus dans la culpabilité. Si je pense un jour me réveiller le matin en pensant que le rez-de-chaussée est comme ça, eh ben là c'est comme Sisyphe, hein. C'est rouler une pierre, tenter d'améliorer l'ordinaire sans jamais y arriver en réalité. C'est que notre espérance, elle est au ciel, elle n'est pas dans la vanité. En psaume 39, verset 5, il est dit « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Tu as donné à mes jours la largeur de ma main. Et ma vie est comme un rien devant toi. » Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. C'est le même mot en hébreu que vanité. Voyez ? C'est-à-dire que notre vie n'est qu'un souffle. Et c'est en cela que les existentialistes ont raison sur la nature humaine. C'est à quoi bon vivre ? Est-ce que c'est un souffle ? Ça va disparaître. Alors du coup, il y avait cette idée, Dieu n'existe pas, la vie est absurde, donc au minimum, on va en profiter. On va en profiter avec nos sens. Mais nous avons une espérance plus grande parce que pourquoi ? Notre vie n'est pas la largeur d'une main en réalité maintenant. Notre vie, c'est une hauteur infinie, une profondeur infinie, une largeur infinie, largeur, profondeur, il manque un quatrième, longueur, voilà, de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes maintenant entourés par l'amour de Dieu et ce qui fait que ça a élargi notre existence. C'est ce que Ésaïe nous dit, vous savez, il faut élargir nos tentes. Ça, c'est la vision objective des choses. C'est que si je regarde à ce qui est vain, je vais déprimer. Parce que c'est vain. Ça ne changera pas. Il y a des choses qui changeront. Ça s'appelle la sanctification. Mais il y a d'autres choses dans la vie qui ne changeront pas. Pour certaines personnes qui ont, je ne sais pas, un problème physique, peut-être que ça ne changera pas, à moins d'un miracle. Pour certaines personnes, la vie a fait qu'ils ont des fins de mois difficiles parce qu'ils n'ont pas un métier qui rapporte énormément d'argent. Ce sera peut-être tout le temps comme ça. Il y a des choses qui ne changeront pas. En revanche, il y a d'autres choses qui se construisent en nous et qui dépassent la simple largeur d'une main, c'est-à-dire la largeur de notre existence qui est une vapeur en réalité. Vous savez, quand vous avez une bouilloire où il y a de l'eau qui est en train de bouillir et qu'il y a de la vapeur qui s'élève, vous n'arrivez pas à maintenir la vapeur. Elle disparaît à peine. Vous savez, ça m'a toujours intrigué. Ça et les flammes, c'est un peu pareil. Quand vous regardez un feu de bois, vous voyez les flammes là qui bougent et c'est éphémère, si vous voulez. Ça ne reste pas. Et notre vie, c'est comme une petite étincelle là. Hop, ça s'éteint, c'est terminé. C'est fini la vie. C'est une vapeur. Et là, il y a de quoi déprimer. Mais par contre, si je dis de cette vapeur, Dieu a donné un sens. Il y a quelque chose de solide Pourquoi ? Parce que c'est Christ qui m'a donné ce fondement. C'est grâce à lui. Et donc je suis maintenant environné par l'amour de Dieu et ça me permet de ne pas considérer ma vie comme un souffle, ce qui fait que, et là j'ai apprécié tout à l'heure la louange, parce que la louange a ceci d'intéressant, en dehors du fait que ça exalte et glorifie Dieu, mais alors c'est une œuvre d'une certaine manière, parce que pour louer il faut chanter, c'est un acte que l'on fait, mais ça ne rapporte pas pour celui qui chante. C'est vraiment pour l'autre. Vous voyez, c'est vraiment, on exalte le Seigneur. Alors on peut se faire plaisir à chanter, il y en a qui aiment chanter, mais au-delà du, en dehors du plaisir de chanter, ça ne change pas notre situation, on reste les mêmes, mais on pense aux choses d'en haut. Et ce qui fait que ça donne du sens à notre vie. Et on réalise, alors que d'un point de vue naturel, ça ne sert à rien, eh bien, spirituellement, notre cœur, transformé par l'Esprit de Dieu, nous dit, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. C'est un poids éternel de gloire. Quelqu'un qui est une vapeur, qui va vivre un petit souffle, là, il va exalter Dieu le temps qu'il est sur la terre. C'est extraordinaire. Ce n'est qu'une vapeur. Vous savez, il est souvent parlé du parfum de Christ. Hein, on utilise cette expression, que l'odeur de Christ qui est une odeur de mort pour les uns et une odeur de vie pour les autres. Vous savez, quand quelque chose s'échappe d'un récipient, c'est des fois une vapeur qui laisse une odeur. La vapeur disparaît, mais l'odeur reste. Et ça, c'est notre vie. C'est que notre vie peut avoir un impact. Notre vie n'est pas vaine grâce au parfum de Christ qu'on va laisser derrière nous. En soi, on va pas vivre plus longtemps que les autres. On va peut-être pas forcément être plus heureux que les autres. On va pas forcément avoir une vie plus facile que les autres. Mais on n'aura peut-être pas une vie vaine. On va voir, notre vie a un sens en réalité, qui nous a été donné par Jésus-Christ. En psaume 144, verset 4, il est dit, « L'homme est semblable à un souffle, hein, c'est toujours le même mot, c'est vanité, vain, creux. Donc l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Alors parfois, cette façon presque métaphysique de considérer la vie, de façon assez négative, hein, on voit que le psalmiste, la manière dont il écrit, il est un petit peu déprimé quand il regarde à sa propre vie naturelle. Et Job dit la même chose aussi. Job est vraiment le type de quelqu'un qui a expérimenté la souffrance. Et à un moment donné, il est presque obligé de crier, il crie son désespoir, sa douleur, même s'il a tort, mais voilà, il faut que ça sorte, si vous voulez. Et en plus, autour de lui, il a des amis qui n'en sont pas. Hein. Je dis souvent, on les appelle les amis de Job, mais bonjour les amis qu'il a autour de lui. Et là, il se met un petit peu en colère, parce que tout ce qu'il reçoit comme conseil ou comme sentence, il sent bien là que ça n'apporte pas la vie. Et il trouve ça injuste. Donc à un moment donné, au chapitre 7, Job prend la parole. Alors je ne vais pas vous lire tout le passage, tout le chapitre, mais à partir du verset 16, il dit, en parlant des conseils qu'on lui donne, « Je les méprise, je ne vivrai pas toujours, laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. » Donc on voit là que les amis de Job le font souffrir par des consolations qui sont vides de sens, qui sont vaines. Rappelez-vous, hein, il y a notamment une des accusations, c'est que quelqu'un est en train de lui dire « si tu vis ça, c'est qu'il y a un péché dans ta vie ». Non, en réalité, Job, il est vrai, avait besoin d'être transformé. Il devait y avoir un processus de sanctification qui devait se faire dans sa vie, parce qu'il vivait de façon subjective dans certains domaines. Donc il y avait le péché en lui, ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que ce péché engendrait des péchés conscients, c'est-à-dire qu'il n'était pas désobéissant, rebelle, simplement il fallait que dans son être il soit transformé. Donc lui, il a le cœur net, il dit non, je ne pêche pas, pourquoi vous m'accusez? Je ne cache rien. Donc il dit les conseils que vous êtes en train de me donner sont comme vides de sens. Au chapitre 21, il dit au verset 1 et 2, Job prit la parole et dit écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation. Donc c'est intéressant parce que là, la consolation que Job recherche, ce sont ses propres mots. Parce que ce qu'il entend est tellement horrible qu'il dit, mais attendez, laissez-moi me défendre, laissez-moi parler un petit peu parce que ça va être ma consolation. Et ça nous parle de la solitude, où parfois on est les seuls, qu'on ait raison ou pas, que l'on soit objectif ou pas, que l'on ait du discernement ou pas, mais par moments, même si on a tort, les gens nous laissent seuls, et au bout d'un moment, il faut exprimer cette solitude devant Dieu, et quelque part c'est une souffrance que l'on peut comprendre. C'est-à-dire que la personne dit, mais voilà, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas autour de moi, il y a le vide, il y a la vanité autour de moi. Vous ne servez à rien. Et regardez, il dit, donnez-moi seulement cette consolation. Et il continue au verset 34. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Vous voyez, il dit, laissez-moi cette consolation, c'est je vais parler. Et après au verset 34, pourquoi m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. C'est-à-dire que tout ce qu'il entend de ses amis, c'est quelque chose de vain. Et c'est le même mot en hébreu. Ça parle de quelque chose de creux, de vide. C'est la part de la vanité. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression, à tort ou à raison, que les gens autour de nous ne peuvent plus nous aider. C'est vain. Parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui fait que, qui ne résonne plus. Tu parlais tout à l'heure de la compassion. On sent dans la souffrance quand il n'y a pas de compassion autour de nous. Il y a une forme de solitude. Et ce qui est triste parfois, c'est qu'on voit ça dans les couples. Quand les couples se déchirent, les couples se disputent, parfois dans les conflits de génération entre parents et enfants, là je parle sciemment de relations qui devraient normalement être intimes, il devrait y avoir une proximité, une aide. Rappelez-vous, l'homme et la femme sont une seule chair, donc il devrait y avoir une belle complémentarité. Mais malheureusement, dans certaines situations, dans des couples notamment, il y a comme une vanité, parce que ce que l'un peut dire à l'autre ne va pas toucher son cœur, ne va pas l'aider. C'est comme une vapeur, c'est comme quelque chose de vain. Et là, je ne parle pas de celui qui reçoit ça de façon perfide lui aussi, et parce qu'il est endurci. Non, il est dans une attente, une recherche de communion, de relation, mais en fait ça ne passe plus. Tout simplement parce qu'il y a une vision terrestre des choses, des pensées qui ne sont pas renouvelées, des manières de régler les conflits qui ne regardent pas vers le ciel. Et donc, mais Dieu permet ça néanmoins pour nous montrer qu'en réalité, notre vie, c'est vrai, est creuse. Et vous savez, la saison que nous traversons, là je la trouve très intéressante parce que on a passé le printemps dans le confinement, vous savez ce qui s'est passé, mais même si c'était difficile pour certains, il y a quand même la notion de nouveauté, de vivre un événement exceptionnel. Donc il y a quelque chose d'excitant dans la nouveauté. Donc on arrive plus à traverser des périodes un peu courtes comme ça. Là, si ça recommence dans les prochaines semaines, on commence à rentrer dans un temps beaucoup plus long. Et c'est là où en réalité on réalise que des fois, on est dans l'incapacité de traverser ce genre de situation. Parce que dans le temps, si vous voulez, on s'aperçoit qu'en nous, il n'y a pas la capacité de tenir le coup. On serre les dents quelques temps, quelques semaines, quelques mois, mais après, c'est un peu comme les fins de mois difficiles. Il y en a qui vont vous dire, moi, oui, ça m'est arrivé, mais bon, si on se fait un petit peu violence, etc., on a tenu le coup, c'est pas si terrible que ça. Oui, mais si ça a duré 3 mois, 6 mois, c'est possible. Mais quand c'est une vie entière, c'est pas la même chose. Et les épreuves, des fois, sont permises par Dieu, enfin, les épreuves longues, sont permises par Dieu pour aller au creux du problème, pour aller sonder ce qu'il y a vraiment dans notre cœur, où il n'y a plus d'artifice, si vous voulez, il n'y a plus rien qui tient au bout d'un moment. Parce que toute l'énergie de la chair qu'on aura utilisée pendant un temps pour traverser les épreuves que Dieu permet, à un moment donné, l'énergie, il n'y en a plus. C'est comme une vapeur, là aussi. On peut être paré de bonnes intentions, mais à un moment donné, tout s'écroule. Et c'est le vide qui est en nous qui ressort et qui nous désespère. Et Dieu permet ces situations-là pour remplir sa vie en nous. Il permet ça pour nous donner une capacité à chercher un peu plus la gloire de Dieu dans notre propre existence. Et c'est une des raisons de la souffrance, mes amis. C'est là où il faut accepter ce processus de la souffrance. Une autre raison aussi pour laquelle la souffrance apparaît des fois dans notre vie, c'est à cause de la culpabilité. La culpabilité fait énormément souffrir. Ça a commencé dès Genèse chapitre 3, quand il y a eu la chute. Rappelez-vous, quelle est la première réaction qu'Adam et Ève ont eue lorsque l'Éternel est apparu dans le jardin ? La crainte. La crainte fait souffrir. La crainte de la mort fait souffrir. La crainte du lendemain fait souffrir. La crainte de ne pas se sentir capable de vivre certaines choses nous fait souffrir. Mais il y a aussi la culpabilité. Je parle d'une culpabilité là, objective, c'est-à-dire... pas objective, parce que des fois on peut être, se sentir coupable à tort. Mais je dirais une culpabilité qui est liée à la conscience du péché en soi, et voilà ça, on a honte de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe dans notre vie, on a honte de nos pensées, et ça engendre une souffrance. Et parfois d'ailleurs, quand on marche pas avec Dieu correctement, voire quand on ne le connaît pas, on essaye de résoudre le problème de la culpabilité par l'accusation contre les autres, par un système de comparaison, par un système légaliste, par un système religieux, par en minimisant des fois le péché. Tout ça pour atténuer la souffrance qu'engendre la culpabilité. Le problème, c'est que ce ne sont pas les réponses que Dieu veut pour nous. En psaume 51, verset 3, là je vous rappelle, hein, c'est le psaume de repentance de David après son meurtre et son adultère. Il dit au verset 3, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Lorsque un péché est constamment devant nous, ça engendre de la souffrance. Mais en même temps, cette souffrance est nécessaire. Pourquoi ? Pour que justement, on puisse se culpabiliser encore plus ou se démoraliser, mais pour qu'on puisse demander à Dieu de nous débarrasser de ce péché qui est devant nos yeux. Et là, le psalmiste, il devait avoir en tête tout ce qu'il avait fait, hein, toutes les manigances, les mensonges qu'il a dû proférer pendant des mois, son péché caché, le meurtre, la stratégie qu'il a élaborée pour que Uri, le mari de Bathsheba, meure, ben, tout ça c'était devant lui. Il avait, comme on dit, du sang sur les mains. Il n'était pas innocent devant ce qu'il avait fait, bien entendu. Et donc il avait constamment le péché devant ses yeux. Et Dieu permet cette souffrance pour que justement on se repente. Voyez, c'est là où il faut abandonner. Le péché est constamment devant nous lorsqu'on résiste. Soit on résiste parce qu'on continue de le pratiquer, soit on résiste parce qu'on le pratique peut-être plus, mais on se justifie de l'avoir commis. Je me suis mis en colère, mais il l'avait bien mérité. Je lui ai menti, bah oui, mais bon, tu comprends, la situation était telle que... Donc voilà, on peut se donner toutes les raisons du monde. Le problème, c'est que le péché est devant nous. En psaume 38, versets 17 et 18... il est écrit, psaume 38, versets 17 et 18, « Car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. » Vous voyez, dans psaume 51, c'était le péché qui était toujours devant lui. Là, c'est sa douleur qui est toujours devant lui. « Car je reconnais mon iniquité. » Vous voyez le lien entre la douleur qui est devant lui et l'iniquité, le péché qui est devant nous. C'est la même chose. C'est que l'iniquité et la douleur sont associées. Et donc, ma douleur est toujours devant moi, car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Vous voyez, ça c'est le typique de quelqu'un, un peu comme Adam, qui sait très bien qu'il est tombé, qu'il a péché, qu'il a l'iniquité en lui. Et là, il est objectif, il n'y a pas de doute. Mais là où il est subjectif, c'est qu'il ne connaît pas la miséricorde de Dieu. Et donc, comme il ne connaît pas la miséricorde de Dieu, il se connaît lui dans son péché, il a une connaissance de lui-même, mais il n'a pas une connaissance de Dieu. Et comme il n'a pas une connaissance de Dieu, son péché et sa douleur sont toujours devant lui. Ce qui peut engendrer, comme Adam, la crainte qui est de fuir la présence de Dieu. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Parce que vivre comme ça, c'est vain. C'est vraiment creux. Et donc ça nous fait souffrir malheureusement. Lisons maintenant un autre passage dans les psaumes toujours, au chapitre 25. Psaume 25, versets 15 à 17, il est écrit « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Vous voyez la différence là ? Dans les autres passages, c'était le péché qui était devant les yeux du pécheur, c'était la culpabilité, la souffrance. Mais là maintenant, vous avez une autre musique, et c'est celle-là que nous devons avoir. Il est dit « Je tourne constamment mes yeux devant l'Éternel. » Si on ne veut pas, comment dire, jour après jour, vivre une vie vaine où on a toujours le péché devant les yeux, mettons l'Éternel devant nos yeux. C'est ça la clé. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Ça nous parle d'un piège en fait, le piège du péché, le piège de notre existence vaine. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vous savez, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait que, bon, nous sommes chrétiens parce qu'on a été régénérés, on a cru en Christ, etc. Mais après, on n'est pas mieux que les autres. On a les mêmes soucis. On fait des fois les mêmes erreurs. On a les mêmes pensées. On a les mêmes difficultés. Si on vit dans la chair, notre vie est aussi vaine que celle de celui qui ne connaît pas Dieu. Ça ne fait pas de différence. C'est vain de vivre dans la chair. Ça ne sert à rien. Ça fait souffrir les autres et ça nous fait souffrir nous-mêmes. La clé, c'est de regarder vers l'Éternel, d'avoir constamment l'Éternel devant nos yeux et de lui demander de l'aide. C'est-à-dire, ne pas... Vous savez, si je devais faire un sketch ou transposer l'idée que j'essaie de vous communiquer là à l'instant. Imaginons Adam et Ève, ils pêchent, ça c'est pas imaginons, ça a eu lieu. L'Éternel arrive, ils se cachent parce qu'ils savent qu'ils sont nus et qu'ils ont péché. Mais imaginons la scène où l'Éternel arrive, mais comme ils ont une connaissance quand même du caractère de Dieu, ils se cachent là et puis ils sont en train de dire « Seigneur, on a péché, tu n'aurais pas une solution ?» Vous voyez, c'est ça que nous devons faire, nous, devant Dieu. On n'est pas dupes, on sait que l'on pêche. Bien entendu, on a honte parfois. Mais même dans notre honte, on a quand même la possibilité de dire à Dieu « Seigneur, au secours, viens m'aider. Je sais où j'en suis, d'accord ? Je ne suis pas fier de moi, c'est vain ce que je suis en train de vivre. Mais aide-moi, s'il te plaît. » Alors qu'en fait, parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils se cachaient et quand l'Éternel a parlé, les a interrogés, ils disent « Ouais, on s'est caché parce qu'on a eu peur de toi. » C'est-à-dire que la relation était brisée entre l'Éternel et Adam et Ève, mais Adam et Ève aussi avaient cette relation brisée devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de demander de l'aide à celui qui peut tout. Et lorsqu'on essaye par nous-mêmes de pouvoir, c'est rouler une pierre en haut d'une colline sans fin. C'est qu'on ne pourra pas. C'est vain. Vous savez, le repos, c'est de dire « Seigneur, c'est toi qui vas rouler la pierre pour moi ». D'ailleurs, rappelez-vous, il y a des années, j'avais fait un message, parce qu'il y a cette expression qui revient souvent dans la Bible, on voit ça dans Ézéchiel, mais on voit aussi, lorsque le peuple de Dieu arrive au Jourdain, il y a Gilgal, et Gilgal, ça parle de rouler l'opprobre. Et dans Ézéchiel, il est parlé de rouler le péché. C'est-à-dire que c'est comme une porte qui se ferme à cause du péché, et Dieu a roulé le péché pour que nous puissions entrer dans une nouvelle vie. Et d'ailleurs, la pierre qui roule devant le tombeau est une très bonne image, une illustration de ce principe-là. C'est qu'il a vaincu la mort, et la pierre a roulé. Et de la même manière, nous, on est devant Dieu, on dit « Seigneur, on est devant une porte qui se ferme, et on dit « Seigneur, comment tu peux faire ?» Et Dieu, il a pris sur lui notre iniquité, il a roulé l'opprobre dessus de nos épaules. Et c'est cette idée que Jésus donne, vous savez, lorsqu'il dit « Prenez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, car je suis doux et humble de cœur », il dit « Et mon joug est aisé ». C'est-à-dire que lui, il a pris toute la charge de notre péché. Et aujourd'hui, on peut être soulagé. Notre cœur peut être renouvelé. Ça, c'est le Dieu que nous devrions connaître si besoin est. C'est trop souvent, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, quel est le refrain qui est dans notre tête ? Le refrain, c'est « j'ai encore échoué, ça va encore arriver demain, je m'en sortirai jamais, je suis nul, ce sera toujours comme ça, il ne changera jamais, les autres seront toujours comme ça ». Oui, on peut penser ça tous les jours, et alors ? On peut même avoir un marteau comme un juge et prononcer une sentence tous les jours. Le problème, c'est comme se taper sur la tête avec ce marteau. Rappelez-vous la chanson des années 60, « Si j'avais un marteau ». Mais il y a des gens qui se tapent dessus, qui se flagellent parce que, en fait, ils prononcent des sentences en permanence contre eux-mêmes et contre les autres, mais c'est vain, ça ne sert à rien. Parce que ça ne changera pas demain, ça. Ce qui a changé, c'est que Christ en nous, cet espoir de gloire, fait que chaque jour peut être nouveau. Je peux vraiment être renouvelé dans mon esprit. En psaume 50, versets 1 à 14, on va le lire un peu là, c'est un long passage, mais je vais commenter quelques portions. Il est écrit là, psaume 50, versets 1 à 14, c'est un psaume d'Asaph. « Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Ça, c'est nous, les fidèles qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Le sacrifice, c'est le sacrifice de Christ. C'est ça la clé. « Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Et après cette pause, c'est Dieu qui parle maintenant. Donc Dieu dit « Écoute mon peuple, et je parlerai. » Ça, c'est la clé. Dieu ne peut pas parler si on n'écoute pas. Il faut avoir l'oreille exercée. Rappelez-vous, en Ésaïe, il est dit de Jésus que tous les matins, il se levait et il exerçait son oreille comme écoutent les disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui d'abord écoute. Et donc, quelqu'un qui écoute, c'est qu'il a une oreille prête avant que le maître parle. C'est une attitude de cœur. C'est pas le maître parle et du coup j'ouvre mon oreille. C'est j'ouvre mon oreille pour que le maître parle. Un peu comme dans une salle de classe, quand il y a un peu de bruit, des fois, moi, notre maîtresse ou nos instituteurs, nos profs, ils s'arrêtaient de faire le cours et ils attendaient que le silence se fasse. Ils disaient rien. Et au bout d'un moment, on se rendait compte que, le prof devenait muet, il ne disait rien, et automatiquement, on commençait à parler moins fort et on s'arrêtait, et puis on disait, il va dire quelque chose ou pas. Il obtenait le silence et l'écoute par son propre silence. Et parfois, c'est ce que Dieu fait. Ne parle pas parce qu'on n'écoute pas. Et donc là, écoute mon peuple et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Dans d'autres passages, on voit que, dans les prophètes notamment, on voit que Dieu rejette les sacrifices parce qu'il y a vraiment tellement d'idolâtrie et d'hypocrisie qu'il n'en fait pas cas. Mais là, il dit non, c'est pas tes holocaustes. Et il dit tes holocaustes sont constamment devant moi. C'est intéressant parce que nous devons avoir l'Éternel devant nos yeux et lui, il a les sacrifices devant ses yeux qui nous permettent l'accès à Dieu. Et il dit, je ne prendrai pas de taureau dans ta maison ni de bouc dans tes bergeries. Là, sous-entendu, c'est que les sacrifices que tu m'apportes, je les accepte, mais en même temps, j'en ai pas besoin. Je ne vais pas te voler, je ne vais pas tout te prendre, je ne vais pas voler tout ton troupeau. Et des fois, nous, c'est un peu comme ça avec Dieu, c'est-à-dire qu'on se dit, mais si je commence à me repentir, jusqu'où ça va aller ? C'est un peu comme lorsque, je sais pas, un chef dans un bureau nous demande quelque chose, on dit, non, je ne vais pas dire oui, parce que sinon, après, je vais lui donner ça et il va me demander ça. Ça, on n'a pas un peu ce tempérament-là des fois. Ça, on préfère se prévenir. Et avec Dieu, on est un peu comme ça. C'est-à-dire que si je commence à tout lâcher, à lâcher un peu, je vais être obligé de tout lâcher. Et on est suspicieux. On pense que Dieu va nous demander au-delà de notre capacité. Comme si on avait un Dieu qui était méchant et qui cherche à nous mettre un zéro. Mais là, elle dit, vous savez, tous les animaux des forêts sont à moi. En d'autres termes, Dieu peut en prendre des animaux, il en a. Il n'a pas besoin de nos sacrifices. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. En d'autres termes, il peut faire ses courses, Dieu, s'il a faim. Il n'y a aucun problème. Mais ensuite, il dit, est-ce que je bois le sang des boucs ? Et c'est vrai que les sacrifices nécessitaient le versement du sang, mais ce n'était pas pour abreuver le Seigneur, c'était pour expier la faute en réalité. Il dit « offre pour sacrifice à Dieu », et là c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il dit « j'ai tes holocaustes devant moi, mais ce que j'attends au-delà », il dit « offre » au verset 14 « pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers l'Éternel ». Là, le mot « action de grâce » en hébreu, parce que « action de grâce », c'est une expression un peu fantomatique. Qu'est-ce qu'une action de grâce C'est une action, ça veut dire « j'agis », mais un agissement de grâce, ça veut dire quoi Comment, qu'est-ce que c'est, agir de façon gracieuse ça parle de confesser soit le nom de Dieu, soit nos péchés, mais c'est le fait de parler à Dieu, c'est une action de grâce. Et donc, ça a engendré la louange, est une action de grâce. Donner louange à Dieu, faire les choses pour Dieu, c'est ça une action de grâce. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après il dit « accomplis tes vœux envers le Très-Haut ». C'est-à-dire que On est racheté par les holocaustes que l'on apporte, ça c'est dans l'Ancien Testament, nous on apporte Christ aujourd'hui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de notre existence? Eh bien, nous faisons des actions de grâce, c'est-à-dire qu'on fait des choses pour le Seigneur, pas pour ne plus avoir peur, pas parce qu'on a la crainte, on ne fait pas les choses pour essayer de rendre notre vie moins vaine, moins creuse. Non, on est rempli de Dieu, on a été racheté par Dieu, on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. On a tout en Jésus-Christ. Donc on ne fait plus les choses pour essayer de racheter quoi que ce soit. On ne fait plus les choses pour essayer de se déculpabiliser. On ne fait plus les choses pour essayer d'enlever le péché devant nos yeux. Non, tout a été pris sur la croix de Jésus-Christ. Et donc qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Des actions de grâce. Seigneur, pourquoi je viens au culte? Pour obéir à un commandement, il faut que je vienne? Non, action de grâce, je vais les jours, parce que j'ai envie de te plaire. Je fais quelque chose qui est spirituel, qui a de la valeur, qui te plaît, parce que tu as envie de voir ton peuple rassemblé. Pourquoi je vais te louer? Parce que je sais que ça te fait plaisir. Pourquoi je vais confesser mon péché? Parce que je sais que tu as payé pour ça et que tu as envie de me restaurer, tu as envie de me remplir du Saint-Esprit, tu as envie de m'éclairer, de me renouveler, de me faire avancer dans la vie et de me sanctifier. Pourquoi je vais aider mon prochain? Parce que c'est une action de grâce. Je ne vais pas faire la chose pour exalter mon ego, pour me faire un ami en plus, même s'il devient mon ami, c'est très bien, mais je ne vais même pas le faire pour ça. Je vais pardonner à mes ennemis, même si eux, en retour, ils ne sont pas reconnaissants. Je vais le faire pourquoi ? Action de grâce, gratuitement. Je fais les choses parce que je suis libre maintenant, Jésus-Christ, parce que j'ai la possibilité de faire ce que le péché et l'iniquité ne pouvaient pas faire. Et lorsque le péché et l'iniquité le faisaient, c'était pour d'autres raisons que de plaire à Dieu. C'était pour d'autres raisons que de glorifier et d'exalter le Seigneur. Maintenant, l'action de grâce, c'est de vivre vraiment dans une entière liberté. Vous savez, on n'aura pas le temps de tout voir là, on continuera mercredi, mais je vais juste terminer là-dessus parce que je ne veux pas être long aujourd'hui. Mais concernant la confession des péchés, vous savez, on a les péchés qui sont devant nous, on veut s'en débarrasser, il y a des habitudes de vie, etc. Mais vous savez, la repentance, c'est aussi un mot qui, même s'il est utilisé très souvent dans les Écritures et aussi dans nos bouches, dans le milieu chrétien, posons-nous la question, c'est pourquoi on se repent et pourquoi on abandonne un péché? Parce que parfois, on abandonne certaines situations, certains péchés, certaines choses, c'est vrai, mais la motivation n'est pas la bonne. Et ça, c'est vain, c'est creux, et ça ne nous rend pas heureux, et c'est ça qui nous fait vivre jour après jour dans un système légaliste dont on ne se sort pas. Et tout à l'heure, ce matin, un exemple qui m'est venu à l'esprit, et d'ailleurs, c'est très bien comme exemple parce que c'est lié à la notion de péché et de dette qu'on a envers Dieu. Parce que, rappelez-vous, Jésus a payé pour nos péchés, donc il a payé une dette. Bah, pensons à la notion de dette. Imaginons que vous empruntiez de l'argent à quelqu'un, une somme assez importante, je sais pas, 10 000 euros. D'accord, vous voulez acheter une voiture, c'est urgent, vous avez le crédit qui est refusé, vous avez vraiment besoin de cette voiture pour aller au travail, donc ce sont des bonnes raisons. Vous empruntez 10 000 euros et vous promettez à la personne qui vous prête cet argent de lui rembourser en tant de temps. Puis se trouve que, pour X raisons, soit parce que vous n'avez pas été sérieux dans la gestion de votre budget, soit parce qu'il vous est arrivé d'autres situations, vous n'arrivez pas à rembourser. Et donc vous avez une dette vis-à-vis de cette personne. Et il y a une pression qui vient. Peut-être vous avez du retard pour rembourser ces mensualités, ou en tout cas ce que vous aviez promis. Et donc il peut y avoir plusieurs attitudes. C'est que je peux en effet tout faire pour rembourser cette dette, car j'ai peur de me faire un ennemi. J'ai peur de ce que l'autre va dire ou faire. Donc c'est la crainte qui fait que je vais rembourser. Ça, c'est la première option. La deuxième option, il y en a peut-être d'autres, hein, je vous donne quelques exemples, vous aurez peut-être d'autres idées à me communiquer après, si vous voulez, mais l'autre raison qui nous pousse peut-être à rembourser, c'est qu'on a peur du qu'en dira-t-on, c'est que si celui à qui je dois de l'argent commence à dire aux autres que je rembourse pas mes dettes, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Donc avant que cette personne ne fasse ça, je vais essayer de la rembourser. Dans les deux cas, j'ai remboursé ma dette. D'une certaine manière, je suis irréprochable. Mais est-ce que c'était la bonne motivation pour rembourser la dette? Absolument pas. C'était encore pour me protéger moi. C'était moi qui étais en avant, c'était pas l'autre. Alors qu'en fait, Il y a une autre raison aussi, c'est que la personne, elle me téléphone tous les jours pour me demander de rembourser la dette, et comme j'ai envie d'être tranquille, ben je fais tout pour rembourser. C'est une troisième raison. Mais il peut y avoir une quatrième raison, c'est que je suis triste de faire du mal à celui qui m'a rendu service. Et donc, je fais tout pour le rembourser parce que ça me fait de la peine de lui faire de la peine. Ça me fait de la peine de le mettre dans l'embarras. Peut-être que lui, il a besoin de cet argent. Donc, je rembourse ma dette. Quelle est la bonne motivation? C'est la dernière. C'est-à-dire que je rembourse ma dette parce que c'est juste de rembourser la dette. Les trois autres exemples que je donne, c'est juste, la personne légalement a rendu la dette, mais il faut voir avec quelle attitude de cœur. Elle en veut à la personne qui lui a prêté de l'argent de lui demander de rembourser la dette. Alors quand le quatrième, il se repent vraiment. C'est-à-dire qu'il dit, je suis en train de faire du mal à celui qui m'a fait du bien et donc je rembourse ma dette. Nous, en tant que chrétiens, on n'a pas à rembourser Dieu. En revanche, pourquoi? Parce que lui, il a payé. Ça, c'est génial. Mais prenons l'exemple de celui à qui on a remboursé la dette. S'il sent que la personne lui a remboursé la somme, parce qu'en fait elle a été presque obligée tellement vous l'avez appelé tous les jours, la personne vous a remboursé, mais est-ce qu'elle va rester votre amie? Pas sûr, parce que quand vous voyez la manière dont il a fallu s'y prendre pour retrouver l'argent, la personne a remboursé, mais il y a quand même un fossé qui s'est installé dans la relation. Voyez, donc légalement, quelqu'un de l'extérieur peut dire « Mais pourquoi tu vois plus trop cette personne, c'est plus ton ami, elle t'a remboursé ?» Mais vous, en vous-même, vous savez que la motivation n'était pas bonne. Donc ça a entaché la relation. Et bien, c'est un peu la même chose avec Dieu. C'est que des fois, on se confesse ou on abandonne certains péchés, mais pas pour les bonnes motivations. On fait des choses des fois pour Dieu, pas forcément pour la bonne motivation. Imaginons, un exemple idiot peut-être, mais une personne qui vient régulièrement à l'église et qui, parce qu'elle a passé un moment difficile, pendant 2 semaines de suite, elle vient plus à l'église. La troisième semaine, elle est toujours dans le même état, mais elle se dit « bon, faut que j'y aille, parce que qu'est-ce qu'on va dire avant que le pasteur m'appelle, je vais y aller. » Est-ce que c'est une bonne manière de se rendre un culte? Bien sûr que non. Bien sûr. Alors, extérieurement, tout le monde peut applaudir. « Ah, tu reviens, c'est super, on est content de te voir. » Oui, la personne qui revient peut en avoir l'impression qu'elle est en paix avec Dieu. Mais Dieu dit « Mais là, t'es au culte, mais c'est pas une action de grâce que tu fais là. » C'est comme si la dette n'était pas payée. Il y a une mauvaise motivation. Et c'est ça qui nous fatigue et qui nous rend malheureux. Parce que quand on vit un christianisme de ce type, c'est un christianisme vain, qui est creux, qui nous fatigue. Le christianisme qui nous motive, qui nous vivifie, qui nous permet de tenir sur la durée, qui nous permet, alors que peut-être on vit des souffrances très dures intérieurement, soit parce que les gens nous font du mal, soit parce que intérieurement on a des problèmes, etc. Mais en même temps, on peut être vivifié. C'est parce que on est peut-être là derrière notre buisson et on se dit « Seigneur, ça va pas bien, mais s'il te plaît, tu peux faire quelque chose. » C'est-à-dire que Dieu reste notre ami. Dieu reste notre consolateur, Dieu reste notre Dieu, notre Seigneur. Et donc, on veut arrêter certaines choses, on veut s'en sortir d'abord pour lui plaire, pour lui faire plaisir, parce que c'est en étant rempli de lui que notre vie n'est pas vaine. Et donc, les soucis de la vie seront toujours là. D'accord? Il y aura toujours des choses un peu vaines que l'on fera. Marthe, elle fera toujours la vaisselle, elle nettoiera toujours sa maison. Mais elle n'aura plus la même motivation. D'accord? Il n'y aura plus cette vanité. Pourquoi? Parce que d'abord, elle sera libre de pouvoir interrompre ce travail parce que Jésus est dans la maison et c'est plus important de l'écouter. Première chose. Ou alors, elle fera les choses, comme on le voit plus tard d'ailleurs. J'avais fait un message aussi là-dessus, où on voit, alors c'est dans Jean aussi, il y a Lazare qui est revenu à la vie, donc il est dans la maison. Vous avez toujours Marie qui est au pied de Jésus et Marthe qui est en travail, mais il n'y a pas de tension dans la maison. Il y a la paix dans la maison. Pourquoi? Parce que Marthe continue, c'est son tempérament, d'épousseter la table, mais elle râle plus. Et elle dit plus à Marie, pourquoi t'es avec Jésus? C'est-à-dire que la scène est la même, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la résurrection de Lazare. Et la résurrection de Lazare fait que la motivation pour laquelle on fait les choses, c'est plus la même. Ce ne sont plus les mêmes. Et ça doit être notre guide aujourd'hui. C'est la vie de résurrection qui fait que la vie change. Qui fait que ce que l'on fait, Ben, c'est des fois la même chose, mais ça n'a plus le même parfum, ça n'a plus la même odeur. Et ça devient une vie exaltante, même si au quotidien elle peut être routinière, ou même si des fois elle est empreinte de difficultés.